France Inter. Le masque et la plume. Pour l'émission du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de France Inter avec son édito culture à 9h40 chaque mercredi. Nelly Caprilian des Inrecuptibles, Laurent Chalumeau, auteur, je le cite, d'Espèces de Polar and the Famous. Non, je vais pas le dire parce que je vais me prendre plein de mails pour anglicisme, je recommence. Et l'indispensable Patricia Martin de France Inter avec leur philo le vendredi à 20h10. Avec un tel aréopage, vous l'avez compris, nous allons débattre de l'actualité littéraire. Au programme, les nouveaux romans de Jean-Paul Dubois, Paul Auster, Joyce Ormond, Jean-Christophe Ruffin et la fantastique Phoebe Hadjimarcos Clark. Chien cloné, psy qui pleure, Sultana, palais de justice, quelques-uns des mots qui seront prononcés dans l'heure, depuis la scène et face au public du Théâtre de l'Alliance Française. Bonjour et bienvenue. L'essentiel du courrier de la semaine concerne Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, qui trouve son public en librairie un mois et demi après sa sortie devant le 40e tome d'Astérix et juste derrière Le murmure, roman posthume de Christian Bobin. Le ciel ouvert a divisé la tribune du masque autant que ses auditeurs, tandis que tu lui avais consacré un coup de cœur enflammé, Nelly.
Ah oui, moi j'ai adoré. Ouais.
Alors Nicolas Framont nous écrit de Sainte avec lui un regret en disant « J'aurais dû écouter Arnaud parce que j'ai acheté Le ciel ouvert » et il le décrit comme une compilation hâtive. Il résume le propos du livre par la phrase suivante « Profite du moment présent car la vie est courte ». Original, non ? Conclut-il. Catel d'Orléans s'agace d'un style, je cite, « auto-complaisant ». Nicolas Mathieu se regarde écrire. S'il fait des phrases avec un clavier d'ordinateur, on l'imagine plutôt avec une plume d'oie entre les doigts. Caroline Lany, quant à elle, a intitulé son mail « Littérature et réseaux sociaux ». Arnaud, écrit-elle, vous mettez en doute la pertinence de la présence de la littérature sur les réseaux. Je rappelle que Nicolas Mathieu a d'abord posté les textes qui composent Le ciel ouvert sur Instagram. Or, cette pertinence est bien réelle, et cette auditrice de poursuivre, c'est l'occasion de donner envie de lire et de faire découvrir d'excellents ouvrages. Exemple, celui de Nicolas Mathieu. Sébastien Bourdon de Saint-Ouen affirme « Ni l'ego, ni les coquetteries de littérateurs ne parviennent à freiner l'enthousiasme. Nous avons déjà arpenté le monde dont parle Nicolas Mathieu. On y a saigné et souffert d'autant plus cruellement qu'on était bien incapable de le sublimer aussi bien sous la plume. » C'est à la table de nuit de Patricia Martin que s'intéresse Yves Père. Lors de la dernière émission mémorable de Jérôme Garcin, tu avais cité les mémoires de Jean Monnet comme livre de chevet, Patricia. Et voilà, Arnaud en rit encore.
Marre-toi, Vivian, bien, jaloux.
Justement, les critiques ont bien ri, écrit Yves, mais Patricia m'a convaincue malgré leur moquerie. J'ai donc acheté le livre.
Et alors ?
En ai lu les premières pages. Et alors ? Et je n'ai aucun doute, il va me passionner, dit Yves.
Je l'avais dit.
Rira bien qui rira le dernier. C'est sa conclusion. Enfin, Cathy de Nogent m'écrit de Vincelles. Elle note que j'ai diffusé un extrait des Vacances au bord de la mer de Michel Jonas dans la séquence courrier d'une précédente émission. Et cette auditrice me suggère la diffusion, cette fois, de Fuite et fin de Catherine Lara, en référence au dernier roman de Claire Fercac. Cependant, chère Catherine, pour ce qui concerne la variété merveilleuse des années 80, je pense m'arrêter là. J'ouvre cette émission avec le nouveau roman de Paul Auster, Baumgartner. C'est le titre du livre et le patronyme du personnage principal, Seymour Baumgartner, professeur de philosophie vieillissant, que l'on trouve au début du récit un matin où rien ne va. Il s'ébouillante la main avec une casserole laissée sur le feu, déboule une employée du Parti Socialiste, hein, UPS, pour qui il a le béguin. Baumgartner chute ensuite dans les escaliers de sa cave avec un électricien maladroit. Donc toute une série d'empêchements au présent vont amener cet homme à entrer, je cite, dans le palais de la mémoire, ses amours perdus, dont sa femme décédée, Anna, son père, sa mère. Dans le texte sont insérés des manuscrits d'Anna et des articles que Baumgartner a écrit. C'est un livre sur le deuil, le vieillissement, un recommencement possible. Tandis qu'en novembre dernier, Paul Auster déclarait au quotidien anglais The Guardian que Baumgartner serait sans doute son dernier roman. Nelly.
Ben, j'espère pas, quand même. J'espère pas, d'autant que je suis un peu mitigée. Je trouve que le parti pris est très très beau, qu'il parle du deuil de façon très belle. Donc cet homme qui a perdu sa femme il y a 9 ans. Voilà, il y a plein de jolies choses dans ce texte. En revanche, moi, ce qui me laisse un peu sur ma faim, c'est l'écriture. Enfin, il n'y a pas vraiment d'écriture. Je trouve qu'il n'y a pas de style. Il n'y a pas une phrase qui me frappe. C'est très descriptif. C'est pas ultra passionnant. Il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a un peu, fait douter. C'est que, certes, il est dans le deuil, donc ça, je trouve qu'il en parle bien. Je trouve qu'il y a des scènes oniriques. Il y a notamment une scène où il pense que dans le bureau de sa femme qui est morte il y a 9 ans, son téléphone sonne. Or, on sait que c'est pas possible.
Et qu'elle l'appelle.
Qu'elle lui dit quelque chose qui va le délivrer d'une certaine façon du deuil. Ça, c'est très beau. Voilà, par exemple. Ces passages oniriques, ces signes qui font qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le deuil commence à s'amenuiser. Voilà, ça, j'aime beaucoup. C'est très mystérieux, c'est pas expliqué. En revanche, on apprend tout de suite après qu'en fait, il y a quelqu'un dans sa vie et qu'il est prêt à l'épouser. Là, on se dit, mais comment il a pu faire les 50 ou 80 premières pages en nous parlant du deuil, hein, en éclipsant complètement que cet homme, au fond, est déjà amoureux de quelqu'un d'autre. Enfin, donc, il y a des choses comme ça un peu étranges. L'autre chose que j'ai trouvé un peu étrange, c'est ce chapitre où il parle de l'Ukraine et de sa famille, de ses grands-parents, il me semble, en Ukraine. Et ça, c'est un texte qui est paru dans Libé, déjà, en 2020. Ou signé Paul Auster, où Paul Auster va sur les traces de sa famille en Ukraine et parle d'un certain, d'ailleurs, Monsieur Auster et du nom Auster en Ukraine. Donc là, le problème, c'est que dans ce chapitre qui est quasiment du copier-coller dans la vie d'un personnage qui s'appelle pas Auster, mais Baumgartner, pardon, je trouve que tout d'un coup, lire que son grand-père s'appelait Auster et que c'est... Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il est...
Il dit que c'est le nom de sa mère,
oui. Oui, enfin, il y a personne qui a corrigé le livre, ou c'est fait exprès. Si c'est fait exprès, c'est très beau, je trouve, de faire un collage. Et je pense que c'est la partie post-moderne du livre qui est intéressante. Mais
qui mêle l'autobiographie et la fiction. Il y a ce côté-là,
oui,
quand même.
Oui, il y a un peu ce côté-là. Et bah, c'est quand même un roman. Enfin, en tout cas, au début, ça se présente vraiment comme un roman. Et je le trouve très classique, très ronronnant, avec des passages très beaux. Mais voilà, je suis un peu mitigée.
Laurent.
En lisant, il y a deux observations qui me sont venues. D'une part, c'est curieusement, il fait partie de ces écrivains qui n'ont pas d'oreille, car ses dialogues sont vraiment tout pourris. Alors, en VO, et plus il essaye de donner dans le vernaculaire, et plus c'est désastreux. Alors, je ne sais pas comment la traduction, parce que je l'ai lu en anglais, mais je ne sais pas comment la traduction s'est dépêtrée de ça.
Ça, c'est assez chic,
Ça peut vouloir dire que, en fait, il fait partie de ces auteurs qui vont puiser davantage en eux-mêmes que dans le monde qui les entoure. La deuxième observation qui m'est venue, c'est que, pour quelqu'un qui croit savoir quand même célébrer pour sa sobriété, je trouve que là, il produit une prose très poutre-apparente. C'est-à-dire qu'elle attire l'attention sur les procédés qu'elle met en branle. Alors, certes, le livre est construit de telle sorte qu'il varie les registres. Donc, il est dans l'ordre des choses qu'on s'avise, comme ça, de changement de braquet. Mais il y a ce proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Alors, l'idiot que je suis ne demanderait pas mieux que de voir la lune, mais si seulement le sage pouvait écarter son doigt pour qu'on puisse se régaler de la vision de l'astre. Heureusement, après, ça se fluidifie. Et je pense que les fans sont contents. Et la vie serait belle si tous les livres qu'on a à lire étaient quand même de cette eau. Donc, c'est un bon livre, mais il prend l'eau ça et là.
Patricia.
Alors, c'est peut-être qui suis-je d'abord pour critiquer Auster, et puis c'est peut-être parce que je...
Bah enfin, t'es Patricia Martin.
Absolument.
Non.
Mais oui,
quand même.
Enfin.
Non, je sais quand même qui est Patricia Martin par rapport à lui. Non, mais je me dis que c'est peut-être parce qu'effectivement, moi, en tout cas, moi, c'est un auteur que j'aime énormément, dont beaucoup de livres m'ont enthousiasmée, mais là, j'ai quand même été un peu déçue. Sachant qu'il y a des moments, par exemple, quand il a la scène dans la cuisine où il comprend qu'avec son nouvel amour, ça n'est plus possible, enfin, qu'elle ne l'épousera pas, quoi, qu'elle l'envoie.
Qu'elle le largue pour un autre.
Elle le largue pas tout de suite. Les femmes aiment ce genre d'antichambre. Les mecs, paf, ils t'envoient un texto et c'est terminé. Les femmes sont un petit peu plus habiles en la matière, mais il n'empêche que comme il n'est pas bête, il comprend très bien ce dont il s'agit et il sort. Et là, il y a une très très belle scène. Alors, la scène de rupture autour d'un verre de vin blanc, de non-acceptation d'un mariage, moi, j'y crois pas tellement. Mais en revanche, quand il est dehors et qu'il marche tout seul dans la rue et qu'il se dit voilà, ben, je suis un homme, c'est fini pour moi, j'ai la chair de poule en vous le racontant parce qu'il dit Anna aura vraiment été la seule femme que j'aurais épousée qui comprend très bien ce qu'il en sera de lui. Mais sinon, je trouve que c'est un roman qui est comme dévitalisé pour moi. Alors, je ne ferai pas comme mon camarade de droite, Arnaud Vivian, à citer des passages, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont croquignolesques, notamment « La vie est dangereuse ». Oui, ok, « La vie est dangereuse », bien sûr.
Et Arnaud Vivian, qui a apporté son petit carnet dans lequel il vient de prendre des notes.
Il a écrit, alors, t'as mis des notes
j'ai,
ou pas
oui,
t'as
j'ai
mis quoi
écrit,
t'as mis combien
t'as écrit
sur
j'ai
quoi,
écrit
tes trois 4, mots
4, 3, 2, 1, parce que...
Ça, c'est le titre du roman précédent.
4, 3, 2, 1.
4, 3, 2, 1, parce que c'est le titre du précédent roman de Paul Auster. Mais lisez-le, c'est absolument merveilleux. Celui-là est totalement funèbre. C'est-à-dire que, quand même, la tonalité funéraire de ce texte, dont il dit maintenant qu'il sera le dernier, puisqu'on a appris qu'il était atteint d'un cancer, mais la manière même dont il parle de la mort de sa femme, où on reconnaît quand même très facilement sa véritable femme,
Cyrus Vett,
qui est une grande écrivaine elle-même. Alors il change un peu des choses.
Et elle n'est pas morte dans la vie quand même, heureusement.
Évidemment. Non, mais déjà projeter la mort de sa femme, qui est absolument vivante, comme tu le rappelles, Patricia. Effectivement, il faut déjà avoir une tournure d'esprit assez particulière, quoi. Tiens, ma chérie, j'ai écrit un livre où en fait je suis veuf de toi depuis 8-9 ans. Tu verras. Et puis je tombe amoureux d'une autre. Tu m'as donné la permission.
Mais je t'aime.
En m'appelant au portable dans un rêve. Enfin bon, c'est quand même et la fin fait peur. Elle fait vraiment peur. On va pas la raconter.
Non.
Et donc cette tonalité-là funéraire m'a un peu angoissé, avec des moments qui sont beaux. Effectivement, moi je trouve que la scène avec la scène de rupture et
dont des portraits de femmes,
c'est beau, mais quand même, c'est plombant.
Baumgartner de Paul Auster, traduit de l'américain par Anne-Laure Tissu et publié chez Actes Sud. À présent, nous mettons le cap sur le sultanat de Brunei, en mer de Chine, avec D'or et de jungle, nouveau roman de l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Un barbouze à l'ancienne, directeur d'une société de sécurité privée, propose un coup d'État clé en main à un copain milliardaire, géant de la tech californienne. Il s'agit donc du sultanat de Brunei. Et pour en prendre le contrôle, les ressources du numérique sont mobilisées. Fake news, déstabilisation sociale et j'en passe. Toute ressemblance avec une réalité géopolitique actuelle ou future n'étant pas fortuite. Pour ce techno-thriller copieux, 400 pages, à la fois roman d'aventure et d'espionnage, Jean-Christophe Ruffin déploie toute une galerie de personnages, dont une trentenaire, Flora, nageuse intrépide, qui abandonne son job sur un bateau de croisière pour s'embarquer dans l'aventure, mais... tout ne va pas se passer comme prévu. Laurent.
Alors, ça se lit très bien, hein, c'est très plaisant, c'est très bien boutiqué, c'est tout à fait respectable comme objet, sinon littéraire, du moins éditorial, c'est de la bonne lecture. Après, il ne faut pas se mentir, c'est un SAS glorifié. Ce qui pose d'ailleurs une question, c'est le mec écrit ça et il est à l'Académie française. Du coup, on se demande vraiment pourquoi Gérard de Villiers, en son temps, n'y a pas été admis. Alors certes, d'un point de vue idéologique, ce bon Gérard était assez problématique. Mais si on passe la liste des académiciens au peigne fin, c'est bien le diable si on n'en trouve pas deux ou trois qui sont hystériquement racistes ou propagateurs de la culture du viol. Donc,
Ruffin.
Enfin, non, mais comme l'était Gérard en son temps.
Oui, mais qui n'a jamais été à l'Académie.
Oui, c'est ce qu'il
d'autant que, contrairement à Ruffin, ce bon Gérard, lui, était un authentique styliste qui a inauguré des figures, qui avait une musique tout à fait particulière, reconnaissable entre mille. C'est pour ça que Gérard, en habit vert, ça aurait pu avoir du lustre. Je veux dire, ils ont bien pris Finkielkraut, donc pourquoi pas Gérard. Enfin bon, bref, à défaut d'être devenu immortel,
on va se faire des copains.
Gérard est mort, et donc là, c'est un peu tard, tandis que M. Ruffin, lui, est tout à fait vivant. Son livre est tout ce qu'il y a de recommandable, si on a un long moment ferroviaire à occuper sainement. Ça se lit tout seul. Comme je disais, c'est un peu un gros SAS, mais sans les scènes de cul, ce qui s'apparente à la bière sans alcool ou à la soupe sans sel, mais c'est bon quand même.
Arnaud.
Ouais, je trouve ça trop gentil, en fait.
Oh non, mais c'est pas vrai, tu vas pas te mettre aussi.
Une seule 450 pages, il y a une seule phrase où je me suis dit, tiens, là, il a un peu essayé, un tout petit peu d'écrire. Je vous la lis.
Attention, Arnaud a sorti son petit carnet.
Il énumérait ses possessions comme un condamné qui vide ses poches avant d'être incarcéré. Et donc les possessions, là, il faut savoir donc, que c'est le président de Google. Alors évidemment, c'est très intéressant ça, c'est que Ruffin n'écrit pas Google parce qu'il ne veut pas avoir un procès, donc il écrit je ne sais pas quoi.
Il écrit Goulou, c'est ça.
Enfin bon, en revanche, le sultanat existe vraiment. C'est-à-dire que Ruffin, c'est faible avec les forts et fort avec les faibles. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, le sultanat, pourtant, quand vous lisez le bouquin, vous n'avez pas envie d'y passer vos vacances pour autant. Hein. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il y a au départ, en plus, quelque chose qui est faux dans ce livre, c'est qu'il imagine donc que les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, veulent un État à eux pour pouvoir faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je pense que ce postulat est complètement idiot, que les GAFAM sont extrêmement heureux dans les démocraties dans lesquelles ils vivent, en l'occurrence aux États-Unis, puisqu'on voit qu'ils ont toujours trois coups d'avance sur les démocraties. Ils font les trucs, et puis après, c'est les autres qui courent derrière, les démocrates, pour dire il faut légiférer et encadrer tout ça. Donc ils n'ont absolument pas besoin d'un État. Et après, bon, moi je trouve les personnages, c'est affligeant. La nageuse, elle n'existe pas. Il y a vaguement un gitan qui existe.
Ah bah celui-là, il est sacrément sexy. Ouais. Il n'y a peut-être pas du cul, comme tu as dit tout à l'heure. Mais, et pardon, je reprends tes propos.
Complètement,
mais enfin, c'est quand même sacrément érotique.
Complètement pompé sur Porthos des Trois Mousquetaires, par ailleurs.
Patricia, tu as pris la parole.
Oh, les bras m'en tombent, Rebecca. Franchement, j'ai envie de pleurer. Non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un roman copieux. C'est d'une facture extrêmement classique. Bon, mais qu'est-ce que c'est bon ? Et moi, je suis désolée, mais faire passer autant d'infos comme il le fait dans des dialogues, parce que quand même, ces dialogues, ils sont bien foutus. Le nombre d'infos, que ce soit historique, géographique, politique, littéraire, et roule ma poule, et tout ça, c'est extrêmement fluide. Je suis désolée, il faut savoir le faire. Ces caractères, moi, j'ai beaucoup aimé cette Flora. Moi, je trouve qu'elle existe. Joe, je le trouve hyper sexy.
Joe, c'est le gitan tatoué.
Qui vienne me jouer de la guitare. Le Delachaux, qui est censé être le garant intellectuel. Enfin, c'est une espèce de caution qui sait de quoi il parle.
Qui sait ce que c'est qu'un coup d'État à l'ancienne.
Voilà. Les hackers aussi qui sont là. Alors là, ils sont en tas toujours. Ils disent pas un mot. Ils ne font que bosser. Ils sont complètement hors sol.
Et ils dorment dans des coins. C'est pas la caricature, ça. Hein.
Mais oh bah ouais. Enfin, c'est pas caricatural.
Le problème, c'est que c'est un film qu'on a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu le film.
Ben moi, j'ai jamais lu ce livre-là. Je suis désolée, je ne l'ai jamais lu. Non, moi, je suis très enthousiaste. Franchement, je trouve ça vachement bien fichu.
Alors, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très mauvais. Enfin, je ne comprends pas la cote de Ruffin, mais ce n'est pas son premier mauvais livre non plus. Je trouve ça aussi assez ringard, si vous voulez. Moi, j'ouvre la première page et je vois Jean-Christophe Ruffin et, en gros, de l'Académie française. Et je me dis, mais ils en sont encore là. Mais qu'est-ce qu'on en a foutu ?
Mais ce n'est pas forcément lui, ça peut être l'éditeur.
Et ce n'est pas un garant, mais avec son accord, quand on écrit, on a les épreuves, on les corrige, on sait ce qui se passe. Je trouve ça, mais d'un croire aux institutions à ce point, je trouve que c'est le contraire d'être un écrivain, en fait. Donc déjà, je sais que ça va pas, mais bon, disons, alors j'y vais.
Mais pas que académicien,
là,
il a fait d'autres choses dans sa
là,
vie avant.
Et là, académique, oh, bah, c'est gentil, non, mais là, j'ai déjà vu ce livre, 150, c'est archi rodé, il pompe toutes les ficelles de tous les best-sellers, je n'en peux plus de ces scènes où on nous met le décor, on dirait des scénarios, et ensuite, t'as une flopée de dialogues pour nous expliquer, pour nous donner
foutus,
des
les
datas.
Dialogues.
Mais c'est pas fluide du tout, enfin, c'est juste complètement scolaire, enfin, c'est j'ai pas vraiment envie d'avoir un personnage qui s'assoit et qui parle en face de moi. Par ailleurs, tout ce truc de fake news, de société secrète, de théorie du complot, je suis désolée, c'est dans des films d'action qui sont bien meilleurs. Je ne comprends pas si ce livre marche. Mais les gens n'ont pas la télé,
ouais.
Ils n'ont pas de plateforme, Mission Impossible, Tom Cruise, regardez les James Bond avec Daniel Craig, c'est mille fois mieux. Moi je suis désolée, je pense que, voilà, non, vraiment je ne le recommande pas.
D'or et de jungle,
lisez-le, c'est vachement bien.
De Jean-Christophe Ruffin, est édité chez Calman Lévy. Le prochain roman est en huis clos. Dans le palais de justice de Paris, il est signé Joyce Ormond et il s'intitule « Le témoin ». Ici, le témoin se prénomme Bart, en hommage au Bartleby de Melville, un homme sans signe distinctif ni aspérité au point qu'il réussit à pénétrer et à s'installer clandestinement dans le palais de justice. La nuit, il se planque dans les plafonds du palais et le jour, il assiste aux audiences d'une grande variété d'affaires qui vont du vol de sac à main au viol en passant par le terrorisme. Après À la folie, roman documentaire dans un hôpital psychiatrique où Joyce Ormond écrivait à la première personne, c'est le regard de son personnage, Bart, qui nous fait entrer au cœur de la machine judiciaire et de ses dysfonctionnements, machine où la maîtrise de la langue est un enjeu, voire une condition de survie, ici bien plus qu'ailleurs. Arnaud.
Oui, mais le effectivement... Elle a un programme, visiblement, sûrement, à peu près le programme de Michel Foucault, après Histoire de la folie, qu'elle avait donc écrit à la folie. Là, c'est surveiller et punir, finalement, sur l'institution judiciaire. Et plus que ça, les comparutions immédiates, la justice à l'abattage, comme elle le dit à un moment. Donc, elle a, contrairement à ce qu'elle avait fait dans À la folie, elle a inventé ce personnage de Bart, on sent bien évidemment que elle est allée assister à tous ces procès qu'elle raconte plutôt bien. On pense évidemment au travail que faisait
Florence Oblas, non ?
Oui, et de Dominique Simonneau surtout dans Libération, qui allait très souvent dans ses comparutions. Et qui est devenue aujourd'hui, qui est passée de l'autre côté, puisque elle est devenue contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, comme on dit de manière politiquement correcte. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bien dans le livre. Là, et évidemment, on voit bien que Bart, donc c'est Bartleby. On va comprendre ça à la fin. C'est pas très compliqué. Que quelqu'un qui préférait qu'il n'y ait pas ce genre de procès. Et puis avec un peu, et c'est ce que j'ai préféré d'ailleurs dans le livre, peut-être le Kafka du Terrier, qui est la dernière nouvelle que Kafka a écrite, qui d'ailleurs est restée inachevée, puisqu'en fait cet homme vit dans un terrier à l'intérieur du palais de justice.
Voir sans être
le vu. Nouveau palais de justice. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'elle aurait pu en faire plus sur le lieu, qui est un peu présent, mais pas trop. Et on assiste quand même à des... on s'aperçoit qu'il y a des affaires dites de terrorisme qui sont jugées en comparution immédiate, ce qui paraît totalement étonnant. Donc il y a le procès, si l'on peut dire, d'une justice expéditive, qui n'est pas nouveau, mais sur lequel c'est toujours important de porter un regard. Et moi, alors je sais qu'il y a certains qui diront, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce personnage de Bart. Moi je trouve qu'il donne justement un effet de distanciation par rapport à ce qui est raconté, qui est intéressant.
Nelly ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé le livre de Joyce Ormond, qui en effet, comme disait Arnaud, s'inscrit dans une œuvre maintenant qui commence à vraiment, on voit ce qu'elle est en train de faire. Et là, j'ai adoré des remarques qu'elle fait à travers le personnage de Bart, c'est-à-dire au début, quand il décrit la salle d'audience et il dit « Et entre le juge et les autres, il y avait un trou ». Et donc j'imagine que c'est là que la justice se niche et que c'est là que la loi s'opère, c'est dans ce trou. En fait, pourquoi il y a un trou là ? Et en fait, il y a un trou dans toutes ces affaires qui est l'arbitraire. C'est-à-dire, tout a l'air totalement arbitraire. On a l'impression qu'il suffit d'envoyer les gens en prison. C'est ça, en fait, qui est terrifiant et qui se répète, qui est ce truc de la prison qui ne sert à rien, enfin, qui ne sert pas forcément.
Ouais.
Et dans plusieurs cas, il y a l'avocat qui dit, mais enfin, il a déjà fait, 17 ans de prison, ça n'a pas servi, donc pourquoi vous le renvoyez en prison ? Enfin, il faut trouver un autre truc, il y a des troubles psychiatriques, il y a quelque chose. Et on voit qu'il y a quelque chose de quelqu'un qui devrait être condamné à 4 mois de prison, tout d'un coup est condamné à 18 mois. Et on ne sait pas pourquoi. c'est assez vertigineux. Je trouve que le personnage de Barthes, c'est vrai que je me suis fait pendant toute la lecture, en fait, la remarque que faisait Arnaud, est-ce qu'on n'aurait pas préféré que ce soit elle qui y a et que ce soit franchement documentaire, on n'a pas besoin d'un personnage. Et je trouve que finalement, cette figure de personne qui s'offre le droit à la plus grande résistance.
Par la fuite,
par le refus de jouer les règles, par le refus d'être ni coupable, ni juge, ou de dire qu'on est tous coupables, au fond. C'est un peu nous tous, en fait, Barthes, à certains moments de nos vies.
Laurent.
Je suis d'accord avec l'enthousiasme que soulève globalement le livre, parce que je trouve qu'il y a des pages absolument admirables, j'ose le mot, extrêmement convaincantes. Je trouve que c'est, je ne sais pas trop ce que bien écrit veut dire, mais là, ça s'applique. En revanche, je trouve intéressant, et ça ne gâche absolument pas le livre, hein, mais je trouve intéressant d'observer comment, en fait, ce texte peut être un cas d'école et là, un exemple de texte où l'intelligence, avec et sans guillemets de l'auteur, se retourne contre le texte. C'est-à-dire que le mieux est l'ennemi du bien. Elle avait clairement une matière suffisamment riche, suffisamment forte, et surtout le talent et les mots pour nous embarquer dans ces indignations ou ces consternations. Et là, ce qu'il y a de plus intéressant dans le personnage qu'elle a bricolé, c'est qu'il a été licencié de Pôle emploi. Alors évidemment, c'est très commode parce que du coup, elle peut mettre en résonance deux machines à broyer. Le problème, c'est que pour justifier l'ubiquité de son regard à elle, elle nous fait habiter de façon clandestine le personnage dans le palais de justice. Et là, grammaticalement, on change de tonalité parce qu'on a une espèce de documentaire dont on se passerait sur la façon de se planquer dans les faux plafonds du nouveau palais de justice.
Parfois de façon invraisemblable.
Mais ça prend une place folle.
Non, pas folle, mais on s'en fiche de ça.
C'est quand même des pages qui auraient pu être soit mieux employées à raconter d'autres audiences ou à pousser d'autres cris, soit laissés à l'état d'arbre qu'on n'aurait pas abattu pour les imprimer.
Patricia.
Non, je suis pas d'accord. Je trouve que ce qui est intéressant, au départ, moi, c'est vrai que ce Barthes, il m'a un peu, je me dis, qu'est-ce qu'il vient fiche là, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il est confronté à un magistrat. Et je trouve que là, du coup, sa réflexion sur la justice prend de l'ampleur. Parce que chez Melville, il est confronté à un avoué, en fait. Donc un type avec lequel il bosse. Et là, c'est un magistrat qui le regarde de haut et qui, dans l'exercice de ses fonctions, parce que même quand elle est très critique parfois sur certains magistrats qui font des mines, des bancs, qui prennent des poses, qui ont une robe, enfin, tout ça, ça marque évidemment une distance. Mais là, c'est pas les êtres, l'homme ou la femme qu'elle critique, c'est celui-là ou celle-là dans l'exercice de ses fonctions. Et forcément, le magistrat, il ne peut être qu'à côté de la question que lui pose Barthes. Et c'est valable pour toutes les histoires qu'elle raconte dans le livre. C'est-à-dire que là, effectivement, moi, je trouve que c'est une vision de la justice, de son incapacité à régler quoi que ce soit. Les lois, évidemment, il en faut. Quelle peut être l'alternative à ça ? Elle dit qu'au fond, elle n'en sait rien, sinon peut-être, et encore, c'est pas sûr, la prévention, mais qu'en tout cas, à partir du moment où le couperet tombe, il est toujours à côté de la plaque, en fait. Et c'est une façon de rassurer la société en mettant les affaires sous le tapis, en disant « nous sommes là ». Nous sommes les gardiens de la paix.
L'alternative à ça,
c'est absolument pas vrai.
L'alternative à ça, ce serait I would prefer not to, comme disait Bartleby de Melville. Le témoin de Joyce Ormond, apparu chez Flammarion. Il va falloir être un petit peu plus rapide pour les derniers livres, les amis.
Surtout Arnaud, parce qu'il parle beaucoup.
On passe maintenant à L'origine des larmes, qui vient tout juste de paraître sous la plume de Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019, avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Nous sommes entre Toulouse et Montréal. Comme souvent chez Dubois, le personnage principal se prénomme Paul, comme toujours chez Dubois. Et dans ce roman-ci, il est question d'un parricide post-mortem. Je m'explique. Le père de Paul est décédé. Mais une fois à la morgue, Paul tire 2 balles dans le crâne du cadavre. La justice le condamne à une obligation de soins auprès d'un psychiatre dont l'œil droit ne cesse de pleurer, et les chapitres suivent le rythme de la thérapie où Paul revient sur la figure de fieffé salopard de son père défunt. J'ajoute que nous sommes en 2031 et que la planète est noyée sous un déluge de pluie. Laurent.
Jean-Paul Dubois est un auteur qui ne rajeunit pas, qui a déjà fait un certain nombre de choses, certaines très jolies, qui a déjà eu des prix. Et là, j'imagine que pour ne pas se répéter, il a à cœur de tenter des trucs. Le problème, c'est que là, il tente des trucs qui, de mon point de vue, l'entraînent là où on n'a pas forcément envie de le suivre. C'est-à-dire que voilà, il a un narrateur qui a un ton très distancié, très blasé, assez vite antipathique, de mon point de vue. Il accumule un bric-à-brac d'allusions culturelles, médicales, historiques, dont on peine à identifier la cohérence et qui, assez vite, font l'effet d'une pédanterie ou d'un cache-misère. Et c'est drôle parce que cet auteur qui avait réussi à souvent mettre le doigt sur des choses que tout un chacun pouvait vivre, comme la plus connue étant évidemment son histoire de travaux qui tourne au cauchemar. Là, on a l'impression que c'est un auteur qui se livre à un exercice de style parce qu'il faut bien écrire, il faut bien publier, parce que sinon on crève, mais peut-être qu'il est un peu sec.
Et pourtant, il y a de l'eau.
En tout cas, on voit que les grands écrivains se rencontrent, puisqu'ils consacrent une page aux enterrements express en Corée du Sud, qui est le fond de sauce du livre de Fuenkinos. Donc, si vous voulez, moi, j'ai jamais trop aimé Jean-Paul Dubois. D'abord parce que je trouve, et celui-là, il est totalement gratiné dans ce sens-là, c'est qu'il est toujours animé par des passions tristes. Là, la pulsion de mort, quand même. Le type s'occupe donc d'un truc de pompe funèbre. Enfin, il fabrique des housses pour les cadavres. Sa mère est morte en couche, mais aussi son frère jumeau, parce qu'il avait un frère jumeau, donc il est rescapé. Donc son père était un salaud qui couchait en plus avec son oncle s'est pendu.
Dis pas tout.
Et après, donc il va tuer son père mort. Donc là, et en plus, il pleut tout le temps, et le psychanalyste, psychiatre, pleure tout le temps parce qu'il a un problème de conjonctivite, et on lit que d'eau, quoi. Avec un vieux fond calviniste en plus, qui était déjà précédemment dans le fameux tous les hommes n'aiment pas la bite. Non, pardon. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Pas exactement la même chose. Tout ça, au bout d'un moment, c'est insupportable. Le seul dialogue qu'il a, c'est avec une intelligence artificielle, parce que voilà, il faut placer les trucs, les gimmicks à la mode, etc. Non, merci.
Patricia.
Alors, d'abord, moi, je ne jetterai pas tous les romans de Dubois. Une vie française, avec laquelle le roman avec lequel il avait eu le
prix final.
Enfin, bon, voilà. Là, on se dit simplement qu'il aurait fallu couper au montage, comme on peut dire quelquefois quand on a vu un film trop long. Parce que on comprend bien que le thème du livre, c'est l'obsession et le ressassement. Parce qu'il n'arrête pas, il est chez le psy. Sauf que chez le psy, c'est pas toujours intéressant ce qu'on raconte. Les séances chez le psy, c'est même parfois franchement enquiquinant. On répète et on ressasse et on re-répète. Et là, c'est un peu ça qui arrive. Et donc, au bout d'un moment, il aurait fallu, effectivement, pour le lecteur, élaguer un peu. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, parce que je trouve qu'il y a quand même une veine, il a quelque chose, il y a des chouettes moments, je ne vais pas raconter en quoi, mais l'histoire des jouets, c'est une belle trouvaille littéraire, c'est tendre, c'est affectueux, moi ça m'a plu. La façon dont il parle de ses rapports avec son chien ou le chien, qui n'est pas...
qui est un motif récurrent, d'ailleurs, chez Dubois.
Le personnage du chien, là, par exemple, il est totalement raté.
Non, il n'est pas raté. Mais si, il existe.
Il faudrait faire une émission spéciale chien.
Exactement. Nous, on adore les chiens.
Je vais y songer. En revanche, ce à quoi je songe, c'est le temps qui passe. Donc, je vais passer la parole à Nelly.
Alors, moi, c'est très simple. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le livre un peu comme celui de Ruffin. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu, évidemment, pas exactement la même chose, pas exactement un type qui tue son père déjà mort. Mais la structure du livre, enfin, c'est un peu un truc aussi de best-seller, enfin, ce que j'appelle les best-sellers, les livres qui veulent vendre, en fait, les livres qui veulent plaire, les livres qui veulent tenir en haleine. Et c'est un procédé tellement déjà vu que ça en devient scolaire, là. Et je trouve que Dubois, qui est quand même un vieux de la vieille dans l'écriture, il devrait pas faire des choses comme ça. Donc, commencer par il s'est passé quelque chose d'énorme. Et il y a un mort, et je vais vous raconter pourquoi. Alors, tout le livre,
hein, surtout, en plus,
il va dérouler, il va raconter, et il n'en fait rien. Il n'en fait rien, parce que tout ce qu'il raconte, c'est, et je vais vous dire pourquoi il était très méchant.
Très méchant.
Et toutes les pages, c'est, il était très très méchant. Il était vraiment très méchant, hein. Et très franchement, ouais, je suis étonnée qu'à son âge, il écrive quelque chose comme ça.
L'origine des larmes de Jean-Paul Dubois est publiée chez L'Olivier. Le programme du masque, ce sont donc des auteurs confirmés dont les romans sont attendus, mais aussi des voix nouvelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis Alien à l'ordre du jour. Alien avec un accent grave et un E final, Alien, donc. Deuxième roman de la franco-américaine Phoebe Hadjimarcos Clark. Les chiens, c'est que Fauvel n'en a jamais raffolé. Telle est la première phrase. Or, Fauvel, la trentaine, se retrouve dans une maison en lisière de forêt pour garder une chienne étrange en l'absence de son maître. La chienne s'appelle Anna et c'est un clone. Une bête agressive qui revient souvent les crocs et les flancs ensanglantés. Du bétail est retrouvé massacré et on soupçonne Anna, entre bien d'autres hypothèses. Cette intrigue est prétexte à mêler mythes anciens comme le loup-garou, la bête de Gévaudan, avec des débats plus contemporains comme le fossé qui sépare la génération actuelle des boomers, la peur qui envahit tout, ou encore les violences policières, puisque Fauvel a été éborgné par un tir de LBD pendant une manifestation, donc de gros sujets, comme on dit. C'est parfois gore, psychédélique, souvent fantastique, sans qu'on sache si nous sommes en plein cauchemar ou dans le monde réel. Patricia.
Moi, j'étais très touchée par ce personnage qui, à la fois, elle est... Alors, il ou... Enfin, c'est elle, mais ce nom, effectivement... Bon, donc, il y a cette espèce de glissement entre la bête et l'homme. Elle est traquée complètement par la vie, cette fille. Elle est confrontée à l'étrangeté du monde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fume des pétards en permanence. Ce qui fait que ça permet de créer un côté très flottant à l'histoire. On ne sait jamais si on est dans la réalité ou pas, ou le rêve. L'identité, donc, comme j'ai dit, est très diverse. Et il y a tout le temps une confusion entre homme et animal. Je n'aimerais pas plus avoir un chasseur aux fesses que cette Anna, cette chienne. Pourtant, j'aime les chiens. Mais à certains moments, elle a quand même des crocs assez impressionnants.
Elle est super, Anna.
Elle est super. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que la langue, pour terminer, la langue est belle et juste. Et cette histoire d'œil crevé, comme d'un cyclope, quoi, qui regarde d'autant mieux qu'il ne regarde qu'avec un œil, eh ben, c'est vraiment qui est peut-être d'ailleurs la seule réalité incontournable du livre. J'ai trouvé ça vraiment chouette.
Arnaud.
Ah ouais, ben là, voilà ce que je disais. Voilà un chien qui existe soudainement. Un personnage aussi important que le chien dans Anatomie d'une chute, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un personnage et le titre est merveilleux. Alien, là, parce qu'il y aura des histoires d'extraterrestres aussi. C'est un livre sur la violence, en fait, et sur l'animalité de l'humanité. Et donc, elle se retrouve dans une campagne. Mais évidemment, si on voit bien que c'est une citadine, donc elle est quand même dans l'étrangeté de cette campagne qui, en plus, a des manifestations surnaturelles. Il y a elle crée vraiment un univers et surtout, elle a une langue contemporaine comme j'en ai rarement vu depuis longtemps. C'est-à-dire que soudainement, c'est le son, c'est la langue de l'époque, c'est le français d'aujourd'hui avec un peu d'argot de temps en temps. Et puis, en même temps, voilà quelqu'un qui peut vous parler, d'utiliser l'adjectif infongibuliforme.
Oui, c'est assez dur à caser à la machine à café le lundi matin. Quand
exactement,
même.
Qui veut dire en forme d'entonnoir, et c'est pas du tout pédant, ça glisse là dans la phrase. On va évidemment chercher dans le dictionnaire, moi je savais pas ce que ça voulait dire, donc en forme d'entonnoir, et elle le fait plusieurs fois, mais très très intelligemment. Moi je trouve que c'est ça fait longtemps que j'ai pas vu une styliste apparaître comme ça.
Nelly, vous m'en voyez ravie.
Quand même bouffée de littérature, à part Joyce Ormond, par rapport à ces mastodontes, ces vieux mastodontes. Là, je trouve qu'elle est vraiment dans la contemporanéité.
En fait,
là, c'est le roman contemporain par excellence. C'est-à-dire que sa liberté, elle est d'aujourd'hui. Sa liberté, c'est de mixer plusieurs genres. Elle n'est pas de l'Académie française. On s'en fout. C'est de la mixité. Et donc, elle mixe le roman gothique, le roman de science-fiction, le récit social contemporain, le conte de fées, puisqu'elle est dans une forêt très, très étrange, la philosophie. C'est absolument, je trouve ce qu'elle fait, remarquable. Et on a comme ça, dans la langue, en effet, c'est très tenu, tout d'un coup c'est très cru. On a des scènes qui sont à la limite, en effet, du conte de fées où on sait pas trop où on est, et tout d'un coup il y a une scène de cul à trois. On vrille comme ça dans des états complètement différents, et elle arrive quand même avec une maîtrise, enfin elle est jeune, c'est son deuxième livre, elle arrive avec une maîtrise quand même impressionnante à tout faire tenir, et comme tu disais Arnaud, comme ça, en trois pages, elle a construit un monde. Mmh. Elle construit un monde, et on croit, et on y est.
Ouais. Laurent.
Je suis complètement d'accord. Il y a quelque chose déjà qui prédispose favorablement le lecteur, c'est que d'un point de vue typographique, les pages du livre sont très belles. Mmh. C'est une police de caractère inhabituelle, et il y a un parti pris pour distinguer les dialogues du cours de la narration.
Ouais.
Effectivement, c'est très maîtrisé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que par-delà les petites réserves admiratives qu'on peut formuler, il y a quelqu'un en face, il y a une autrice, il y a une voix. Une voix qui est effectivement celle d'une génération qui n'est pas la mienne. Je veux pas être mufle, mais si vous m'y autorisez, je dirais même qui n'est pas la nôtre. Et une voix qui dit merveilleusement la peur et la colère que notre génération de boomers inspire à sa génération à elle.
Ouais, c'est très juste.
Et c'est un livre qu'il faut recommander, à mon avis, à ceux qui aiment le fantastique, à ceux qui, à tort ou à raison, se méfient de la ruralité et de certains ruraux, et plus encore à tous ceux qui sont curieux de voir comment peut sonner peut-être l'une des prochaines grandes voix de notre littérature.
Donc à ceux qui aiment la littérature, cette voix, ce quelqu'un, c'est Phoebe Hadjimarkos Clark, Alien, c'est le titre, et c'est publié par les éditions du Sous-Sol. Aux 5 livres du programme s'ajoutent nos coups de cœur et je te propose d'ouvrir le bal. Patricia.
Alors, il s'agit d'un premier roman de Denis Infante qui s'intitule Rousse, qui est publié chez Tristram. C'est un peu un phénomène parce que c'est la troisième impression, je crois, en peu de semaines. Rousse, c'est une renarde. On est dans un temps, j'espère, pas trop proche. Alors là, il n'y a plus du tout d'eau, elle devrait en prendre chez Dubois. On est au milieu d'un certain nombre de rescapés, la nature est exsangue. Je trouve que c'est extrêmement serré et dépouillé sur le plan littéraire, et c'est une écriture qui peut exaspérer, moi qui m'a plu. Il n'y a pas d'article, c'est assez particulier, mais c'est vachement bien.
Tu redonnes le titre ?
Ça s'appelle Rousse de Denis Infante chez Tristram.
Arnaud.
Mon conseil, c'est l'ultime roman de Philippe Solers, La Deuxième Vie, chez Gallimard. C'est le contraire, vraiment, du livre de Paul Auster, ou même du livre de Jean-Paul Dubois. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de pulsion de mort, il y a au contraire une pulsion de vie absolument incroyable, puisque c'est la dernière, il a écrit ça durant ses deux dernières années de vie, qu'il a beaucoup passé à l'hôpital. Il y a ce concept de deuxième vie, qui n'a rien à voir avec la postérité, rien à voir avec la résurrection, mais qui est un concept que vous découvrez dans le livre, qui est une espèce de contiguïté de la deuxième vie dans la première, et en même temps Solers, mais en voyant des pics à tout le monde, à Annie Ernaux, à Houellebecq, à mon frère, enfin, il distribue les claques, sachant qu'il sera plus là de toute façon quand ça sortira, et il y va, et il y a vraiment, moi je suis admiratif de cette vie qui se sera exprimée totalement jusqu'à la fin.
Le titre à nouveau ?
La deuxième vie de Philippe Solers chez Gallimard.
Laurent.
Je voudrais attirer l'attention sur un livre pour enfants qui s'intitule « De l'autre côté de la rue », qu'on peut lire à partir de 7 ou 8 ans, et qui fait un sort à la fameuse sornette selon laquelle, pour trouver du boulot, il suffirait de traverser la Strasse. Et c'est un tout petit livre. Alors d'abord, il est minuscule, il fait 46 pages imprimées très gros. C'est l'occasion de parler de son auteur, Michael, avec un K, Olivier, avec deux L, qui écrit donc pour les enfants, pour les adolescents, et aussi pour les grandes personnes. C'est un conteur. Et je trouve ça très noble comme boulot.
Le titre à nouveau alors ?
De l'autre côté de la rue, de Michael avec un K, Olivier avec deux L.
Et Nelly pour terminer.
Moi j'ai ouvert récemment un livre par curiosité journalistique, c'est une réédition. C'est le livre de Judith Godrèche, c'est son premier roman, en fait, qu'elle a publié en 1995. Et je l'ai entendu dire sur France Inter qu'en fait, déjà, elle parlait de l'abus qu'elle a subi, de l'emprise, que tout y était déjà. Et je me disais, mais comment on a pu rien voir ? Donc je l'ai lu. D'abord, j'ai trouvé très beau, je ne m'y attendais pas. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment une voix. Et c'est l'histoire, en effet, d'une jeune fille qui s'enfuit, en fait, d'une emprise. Et il y a des phrases comme ça glissées où on sent ce qui se passe sans que ce soit vraiment dit. Il y a des passages où c'est un peu plus dit. C'est aussi, voilà, 23, 25 ans avant MeToo. Et on voit comment, à l'époque, voilà, c'était moins, voilà, dit comme ça. Mais c'est déjà là. Et je pense qu'il fallait savoir le lire.
Et ça s'intitule Le point de côté.
Point de côté chez Flammarion.
Alors, d'une certaine façon, je vais prolonger ton coup de cœur très rapidement. Moi, je voulais prendre le temps de saluer une poétesse qui dit légitimement, d'ailleurs, qu'elle écrit pour l'honneur des femmes. C'est Brigitte Fontaine. Ses derniers textes sont publiés par les éditions du Tripode. Il y a le bien nommé Parole d'Évangile. Le dernier s'intitule Fatrasie, donc télescopage entre fatra et fantaisie. Et elle parle de la souffrance de son corps de poupée brune en chiffon, comme elle l'écrit. Elle parle du vieillissement, mais surtout elle ne lâche rien de son humour et de sa colère, avec la liberté de poème en prose ou dans le respect de la versification classique. Et comme elle écrit que l'explication de texte est un crime contre l'humanité, je vais m'arrêter là. Donc Fatrasie de Brigitte Fontaine, apparue aux éditions du Tripode. Nelly, Laurent, Patricia, Arnaud, merci d'être venus à la Tribune du Masque. Et je précise que le prochain enregistrement aura lieu le jeudi 28 mars à 19h pour une émission dédiée au livre d'abord, à l'actualité du cinéma ensuite, le tout depuis le théâtre de l'Alliance française, comme d'habitude. Audrey Ripouille réalise Le Masque et la Plume, et c'était avec Philippe Thibault, Nadège Antonini, Alex Olarevajou, Otinois, Mélo et Chalouni et Louise Ilerito. Ilinka Negulesco prépare l'émission avec Célestine Babinet, toutes et tous. Nous vous retrouvons dimanche prochain, si vous voulez bien, et sur France Inter, évidemment.